Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Roman et histoire, l'histoire du Cameroun à travers la Veneta. La Veneta, c'est le titre d'un roman dans lequel il est beaucoup question d'histoire. Beaucoup question d'histoire et peut-être un peu plus beaucoup question du temps. À la fois le temps passé ou les temps passés, une succession de temps parfois qui remonte loin dans le passé, et aussi le temps en train de courir aujourd'hui et peut-être aussi en perspective le temps qui va venir. Dès lors que on considère que les vivants ont le droit, peut-être le devoir, d'agir sur leur destin, de le transformer, de l'infléchir dans telle ou telle direction, donc de jouer également sur l'histoire. L'histoire dans le roman, c'est l'histoire avec toute sa complexité, avec ses enchaînements parfois inattendus, avec des dates, avec des personnages, mais aussi avec le poids du temps qui passe, avec le poids de la mémoire dont certains restent prisonniers, tandis que d'autres essayent de s'arracher, de se libérer de la mémoire et de se libérer également d'un passé qui peut être encombrant et dérangeant. Bonjour à vous, Victor Boadjo.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Ballant, éditeur à Paris, un roman sous un titre, qui ne parle pas beaucoup, parce que ce mot est peu connu des gens. Moi, c'est la première fois que je l'ai vu dans votre roman, La Veneta, qui est donc cette histoire qui se déroule sur des temps très très longs, parce que votre roman commence, on va dire, en 1914, à la Première Guerre mondiale, et il se termine, si je peux dire, à une date qui n'est pas encore là, mais qui viendra en 2045. Donc c'est un temps, long, un temps intergénérationnel, et c'est un roman dans lequel on voit le Cameroun sous domination allemande depuis 1884 jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais on voit aussi le Cameroun, j'allais dire colonie française, parce qu'en fait, théoriquement, le Cameroun partagé en deux entre la France et l'Angleterre est d'abord un mandat de la Société des Nations, puis un territoire sous tutelle, mais à vrai dire, la France qui est en AEF et en AOF traite le Cameroun comme une colonie. Peut-être que les Anglais ne font pas la même chose. Et donc, votre roman évoque ce temps colonial, mais il évoque aussi le temps de la lutte pour l'indépendance et de la manière dont les Français, qui avaient un grand empire colonial en Asie, dans le Pacifique, on va dire aussi aux États-Unis, puisque les départements d'outre-mer étaient là aussi, et en Afrique, c'était le moment où il fallait décider, est-ce que on laisse tomber ces colonies, est-ce que on leur reconnaît leur indépendance, quitte à la limiter par des mécanismes économiques ou autres. Et donc, vous traitez cette période. Mais alors, le nom, la Veneta, on ne trouverait pas ça dans le dictionnaire. D'où vous est venu ce nom? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce nom-là plutôt qu'un autre nom qui aurait été plus parlant immédiatement?
Pour comprendre d'où vient ce titre, je vais revenir un peu en arrière. Ce qu'il faut dire, c'est que je suis aujourd'hui en français, d'origine camerounaise, et que je suis quelqu'un qui a vécu en France, qui a vécu aux États-Unis, et qui a compris l'image que l'homme du monde d'aujourd'hui a de l'Afrique et de l'histoire africaine depuis l'esclavage jusqu'à maintenant, en passant par la décolonisation. Et le cas du Cameroun est emblématique dans l'histoire africaine. Les gens retiennent que l'Afrique a été indépendante dans les années 60 et que n'arrive pas à s'en sortir aujourd'hui. La Veneta vient du fait que un pays qui s'appelle Cameroun a eu la particularité d'avoir été une colonie allemande et qui, après la Première Guerre, a été partagée entre deux puissances européennes, en l'occurrence la France et l'Angleterre. Ce qui vous fait un pays particulier où les gens étaient très politisés, où ils avaient la conscience de ce dont l'homme a besoin pour créer un avenir, pour inventer un avenir. Et des Camerounais visionnaires ont créé dès 1948 un parti politique très au fait de la politique internationale, de la géopolitique. Ils ont même été à l'ONU, le premier d'entre eux, Ruben Umniobe, pour défendre les aspirations du Cameroun, qui, entre-temps, avait été divisé, comme je viens de le dire, en deux, une partie anglophone et une partie francophone. Donc, il revient de l'ONU avec l'assurance que 12 ans plus tard, en 1960, ce pays deviendrait indépendant. Au moment de l'indépendance, la France estime que ces visionnaires, que ces UPCistes, les gens qui ont créé ce parti n'allaient pas être des partenaires faciles à manipuler. On a décidé de les éliminer, d'où un nom de code qui les a appelés, qui les a désignés comme poison, d'où ce mot Veneta qui signifie poison. La Veneta est un poison qui est très dangereux. Quand ça s'attaque à un arbre, il faut le couper parce qu'il n'y a aucun espoir. D'où ce titre.
Alors, cette histoire de Veneta est intéressante parce que vous racontez dans votre livre que ce poison est venu des États-Unis et que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains amenaient des armes dans des caisses en bois tirées d'un arbre qui avait été empoisonné par la Veneta, qui a d'ailleurs la particularité, ce poison, d'avoir la couleur noire. Alors donc, quand vous dites poison, ça veut dire que, en quelque sorte, on veut tuer une organisation nationaliste et peut-être au-delà tuer les hommes. Il y a une sorte de proverbe fameux, un mot très bienvenu de la part d'un des grands policiers de l'histoire de France, Fouché, qui disait que il n'y a que les morts qui ne reviennent pas. Donc, si on veut se débarrasser de quelqu'un, il vaut mieux le tuer plutôt que de le mettre, comme on a fait avec Bourguiba et quelques autres, en prison, parce qu'on est sûr qu'il va sortir de prison. Donc, c'est une histoire de mort que vous racontez, au fond.
Oui, c'est vraiment, l'histoire est prise là par le bon bout, parce qu'au moment de la décolonisation, et précisément au moment de décider qu'on allait éliminer ces nationalistes camerounais, ces choses se passaient dans une ville française qui s'appelle Marseille, dont le maire était Gaston Defer, qui avait comme lieutenant, comme homme de main, un certain Pierre Mesmer, et au moment où la ville était contaminée par ces champignons qui venaient des caisses de munitions au moment où les GI, les soldats américains débarquaient pour défendre la France. Et donc, ça a été très facile de s'inspirer d'un drame urbain qui était les platanes du Prado qui tombaient pour trouver un nom de code pour éliminer, qui a servi à éliminer les nationalistes camerounais. D'où cette convergence entre l'actualité qui était les platanes qui tombaient et l'urgence d'éliminer les nationalistes camerounais.
La différence entre un historien, disons, classique et un romancier qui écrit l'histoire, c'est que l'historien est prisonnier, par exemple, des personnalités que tout le monde peut retrouver dans les archives, dans les livres, parfois à la radio, à la télévision, pour les époques récentes. Vous, au contraire, la chance, le bonheur peut-être d'un romancier, c'est que vous inventez vos personnages, mais je dirais que vous ne les inventez pas vraiment, parce que ces personnages, on a vraiment l'impression qu'ils correspondent à des figures qui ont existé. Il y a par exemple des figures de rois, il y a des figures de cadres de partis, etc. Comment vous avez procédé pour bâtir ces personnages?
Oui, pour que mon histoire soit crédible, il convenait véritablement de prendre des vrais noms pour les gens qui ont joué un rôle capital de premier plan dans cette histoire tragique camerounaise. En l'occurrence, Defer, Mesmer. Dans un premier temps, j'avais pris des noms fictifs, mais mon éditeur a souhaité que les gens qui ont fait cette histoire en répondent. à l'histoire. Par contre, j'ai pris des personnages fictifs comme Régnier, Gustave Régnier, qui était un homme des Lumières, qui a pu exister. On connaît des Français qui étaient du côté de l'UPC. Et d'ailleurs, la carte du parti numéro 1 appartenait en français. Donna, c'était pas un Africain, c'était un Blanc. Et dans la réalité, il était UPCiste. Voilà, donc il y a des rois africains comme Fonjo ou Fonkamgan qui ont véritablement existé, Fokwenda qui a existé et qui ont joué dans l'histoire du Cameroun le personnage que je leur ai prêté. Les deux rois ont été assassinés par le plan Veneta, vraiment dans une intrigue incroyable, machiavélique. Donc j'ai fait se côtoyer aussi bien les gens dont on connaît bien les noms que des gens dont les noms sont fictifs, mais qui ont pu exister réellement dans l'histoire du Cameroun.
Nous sommes avec Victor Boidjo, auteur d'un roman, La Veneta, un roman qui en fait raconte l'histoire d'une indépendance douloureuse, celle du Cameroun. Vous avez donc bâti ce drame autour d'un certain nombre de figures réelles et d'autres que vous avez inventées, mais qui ont pu exister, comme Gustave Régnier, qui rappelle en fait, on va dire, un communiste français proche de l'Union des populations camerounaises. Bon, avec ça, vous avez un peu complexifié votre histoire parce que elle se passe en plusieurs endroits. Hein. Elle se passe au Cameroun, bien sûr, c'est l'histoire la plus importante, mais vos personnages, on les voit aussi en France, dans plusieurs endroits, à Paris, mais aussi dans des villes de province. Et c'est fait pourquoi ? Pour montrer que ce drame localisé au Cameroun a des retentissements en dehors du Cameroun et notamment dans le pays colonisateur.
J'ai voulu à la fois être fidèle à l'histoire et en même temps construire une histoire lisible. Ce projet de construire une histoire lisible m'a fait imaginer une sorte de thriller, dans la mesure où il y a eu un long flashback. Je prends deux personnages qui sont dans une voiture qu'on voit en train de quitter Paris pour aller vers Angers, et quasiment toute l'histoire se passe entre le moment où ils partent de Paris, où ils arrivent à Angers. Ils sont attendus par un troisième personnage qui, avec les deux premiers, une fois qu'ils vont se retrouver, va faire le tour de l'histoire du Cameroun. Et de ce point de vue, je pense que le côté thriller a été respecté. Et je n'ai pas voulu que le lecteur ait un seul moment de repos, dans la mesure où l'un des deux personnages dans la voiture, c'est quelqu'un qui a sauvé l'autre d'une mort certaine. Et donc il y a toujours cette tension entre le père adoptif et son fils, qui est là, qui apprend en même temps l'histoire du Cameroun. Ce qui est vraiment représentatif des trois quarts des Camerounais d'aujourd'hui qui ne connaissent pas leur histoire, qui ne connaissent pas que leur pays vient de loin, arrive de loin, d'une histoire qui a été conduite par des gens de l'extérieur. Et qu'ils ont des frères, des papas, des grands-pères qui ont été des personnages de premier plan, mais qui ont été éliminés les uns après les autres. C'est ça que je voulais montrer en découpant mon histoire de cette façon-là, sous forme de thriller, en quelques heures, en moins de deux heures, entre Paris et Angers.
Vous parlez de film, c'est vrai que ça pourrait donner, on va même dire ça va donner, un film ou une série de films intéressants, parce que ces voyages, ces déplacements, ces retours en arrière, on a l'impression que la mémoire est toujours présente d'un côté, du côté de ce Français notamment qui a été expulsé pour avoir été sympathique à l'égard de la cause nationaliste, et la mémoire est aussi ce que recherchent ces Camerounais d'aujourd'hui qui ne connaissent pas leur histoire. Mais alors, on pourrait vous demander quand même, dans le traitement du passé, est-ce que le fait, l'initiative est louable, est-ce que le fait de réhabiliter des personnages de cette cette guerre sanglante, mais d'en réhabiliter certains et pas d'autres, est-ce que ça n'est pas aussi, peut-être involontairement, une manière de fausser l'histoire ou de détourner l'histoire de ce qu'elle a été réellement? Parce que l'initiative qui date d'il y a quelques années de réhabiliter des gens dont le nom a été sali dans les récits officiels, c'était pour ressouder la nation. Mais par exemple, Oum Niobe, le fondateur de l'Union des Populations Camerounaises, a été réhabilité. Mais quelqu'un pour qui beaucoup d'intellectuels africains ont de la sympathie aujourd'hui, Ossendé Afana, qui a été l'un des économistes les plus importants de notre continent, n'a pas été réhabilité, alors que lui aussi a été assassiné pour les mêmes raisons. Est-ce qu'il n'y a pas là un traitement de la mémoire différente de la vôtre, mais que vous contribuez à rectifier en quelque sorte par ce roman?
Oui, cette question me plaît beaucoup parce que ça va me permettre de préciser certaines choses. Je suis parti avec un triple objectif. Le premier, c'était de dire ce que non seulement le Cameroun, mais l'Afrique serait aujourd'hui si l'histoire avait débuté autrement. Et je pense que pour cela, j'ai bien présenté le combat de l'UPC en général et de Oum Niobe en particulier. Je pense avoir dit ça assez largement. Le deuxième projet était de montrer qu'il y avait des gens de lumière. Des gens de lumière, et d'où le personnage de Régnier, qui a eu toute sa vie ancré, chevillé à la cause noire. Aussi bien quand il était en Afrique, quand il a été expulsé du Cameroun au moment où la page du Cameroun se tournait et où il est venu en France consacrer le reste de sa vie à la mémoire de ce qui s'est passé là-bas. Voilà, donc il existe des gens de lumière. Et le troisième objectif pour moi était de montrer ce qu'il conviendrait de faire aujourd'hui quand on est africain. D'où le personnage de Nkwenda qui est le seul qui parle dans la deuxième partie de mon roman. Nkwenda qui dit que la mémoire de l'Afrique, la mémoire du Cameroun sont ce qu'elles sont, mais qu'aujourd'hui que le passé est déjà dessiné, qu'est-ce que l'Africain doit faire? Et la réponse de Nkwenda est qu'il faut travailler sur le livre, il faut travailler sur l'écrit, il ne faut pas laisser l'histoire de l'Afrique aux autres, il faut la revisiter nous-mêmes par l'écrit, par la maîtrise de nos valeurs, par la maîtrise de notre pensée. C'est ça les trois pôles sur lesquels j'ai voulu travailler moi dans ce livre.
Le Nkwenda dont vous parlez, lui aussi a écrit un livre avant vous, puisque vous signalez ce livre, L'esclavage 150 ans après.
Oui, voilà. Il y a 20 ans, avant le présent livre, le Nkwenda avait écrit un bouquin qui s'appelle Esclavage 150 ans après. Et Nkwenda écoutait la rumeur publique, il lisait les journaux, et dans les journaux, et Nkwenda avait aussi regardé le Mondial de 1998, où il y avait beaucoup de peaux noires qui marquaient des buts et qui faisaient vraiment trembler la France, et qui faisaient dire, dans 5 ans, vous allez voir, on va avoir un mélange de couleurs dans ce pays France, parce que on vient de découvrir que les Noirs aussi ont été des artisans, des créateurs de la France. Le sport n'est pas seulement n'est pas le seul domaine où on a vu les Noirs. Voilà, ça remonte à 20 ans. Et 20 ans après, Nkwenda écrit ce bouquin pour dire, ben voilà, ça fait 20 ans qu'on attend ça. Ce que j'ai écrit il y a 20 ans, on pourrait écrire exactement la même chose en 2018 et on ne changerait pas une virgule. Et c'est ce que moi, auteur, je pense.
Merci à vous, Victor Boidio, d'être venu à notre émission. Nous vous retrouverons pour entrer encore un peu plus dans le détail de ce grand roman, La Veneta, publié aux éditions Ballant. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.